Radio Kapı. Le Journal Belinda Bousouba.
Blocage dans l'application de l'accord du 31 décembre, l'Union européenne s'est dit préoccupée. Pour elle, ni la disparition d'Étienne Tshisekedi, ni la situation sécuritaire ne doivent servir de prétexte pour remettre en question ce processus devant mener à une alternance au pouvoir. Lutte contre la maladie apparentée au choléra qui sévit à Mambasa dans l'Ituri. 4 agences onusiennes apportent leur appui dans la lutte. Vous suivrez le chef du bureau de la MONUSCO en Ituri. Et puis, journée sans transport en commun ce mardi à Matadi. Les conducteurs répondent ainsi à l'appel du député Fabrice Puella pour dénoncer le mauvais état des routes dans la ville. Madame, Messieurs, bonjour. L'Union européenne, gravement préoccupée par la situation politique en RDC, situation provoquée selon elle par le blocage dans la mise en œuvre de l'accord politique du 31 décembre 2016 dans les conclusions de son conseil sur la RDC rendu public hier lundi. Cette institution salue cet accord qui représente la seule voie, selon elle, pour asseoir la légitimité nécessaire aux institutions qui devraient gérer la transition, y compris celle de la présidence. Michel Kifindangoy nous en dit plus.
À en croire les conclusions du Conseil de l'Union européenne, ni la disparition d'Étienne Tshisekedi ni la situation sécuritaire ne devraient offrir de prétexte pour remettre en question ce processus qui doit mener à une alternance démocratique et pacifique du pouvoir. Pour l'Union européenne, l'accord du 31 décembre prévoit entre autres le maintien en fonction du président pour autant qu'un premier ministre présenté par l'opposition soit nommé et que toutes les institutions soient assurées par intérim jusqu'à la fin de l'année. Il exclut par ailleurs le maintien du président actuel au-delà de cette échéance, poursuit l'Union européenne, qui souligne donc l'urgence de la mise en œuvre effective de l'accord afin d'aboutir aux élections avant la fin de 2017. L'Union européenne condamne vivement les violations graves des droits de l'homme et rappelle aux responsables politiques et aux membres des forces de sécurité qu'elle est disposée à adopter de nouvelles mesures restrictives individuelles contre ceux qui seraient responsables des graves violations des droits de l'homme, inciteraient à la violence et qui ferait obstacle à une sortie des crises consensuelles. L'Union européenne invite la haute représentante à initier un travail dans ce sens.
Éclatement du rassemblement en plusieurs courants. Dans une déclaration rendue publique le 4 mars dernier à Bruxelles, Moïse Katumbi dit apporter son soutien à Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi. Félix Tshisekedi est le digne successeur de son père dont il a hérité les talents, en particulier l'énergie et l'abnégation, dit-il. Il saura mener notre famille politique dans son combat pour l'alternance, écrit le gouverneur honoraire de l'ex-Katanga. Quant à Pierre Lumbi, Moïse Katumbi parle de lui comme l'infatigable défenseur de l'état de droit. Ses grandes qualités humaines et politiques seront précieuses pour relever le défi démocratique de notre pays, affirme-t-il. La déclaration de Moïse Katumbi Tshapwe comporte 4 points, à savoir nomination de Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi à la tête du rassemblement, tentative de manipulation par le régime au pouvoir, mise en application de l'accord du 31 décembre et enfin responsabilité du gouvernement dans la dégradation de la situation sécuritaire. Jean-Désiré Kanyama nous donne l'essentiel de cette déclaration.
S'agissant du premier point, l'ex-gouverneur de l'ancien Katanga estime que les désignations de Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi sont d'excellentes nouvelles pour l'opposition congolaise. Nous avons montré notre capacité à nous réorganiser rapidement et efficacement, contrairement à la majorité présidentielle qui n'a pas toujours désigné des dauphins au président Kabila, pourtant fait mandat, écrit-il. En rapport à ce qu'il qualifie de tentative de manipulation du régime au pouvoir, Moïse Katumbi indique qu'alors que le régime en place tente honteusement de nous déstabiliser en manipulant et en achetant certains de nos membres, l'unité et l'engagement du rassemblement doivent être particulièrement salués. Et pour lui, je cite, « Ceux qui cèdent doivent savoir qu'ils jouent les jeux d'un régime cynique qui va à l'encontre de l'aspiration du peuple. » Fin de citation. Par ailleurs, Moïse Katumbi appelle à la mise en application rapide de l'accord de la Saint-Sylvestre avec la nomination d'un premier ministre présenté par le rassemblement. D'après lui, cet accord constitue le socle de la légitimité de toutes les institutions électives congolaises arrivées aujourd'hui fin mandat, tout en invitant le peuple peuple congolais à la vigilance, Moïse Katumbi affirme, je cite, « Notre combat pacifique pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit, nous le gagnerons ». Fin de citation.
Parlant justement du rassemblement, notez que le groupe des membres ayant contesté la désignation de Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi ont déposé hier à la CENCO le procès verbal notarié portant désignation de Olenga Nkoy à la tête du conseil des sages du rassemblement. Selon leur avocat Maître Tshibangu Kalala, le document remis aux évêques a été légalisé par le notaire et portait la désignation de Joseph Olenga Nkoy à la tête du conseil des sages et par Ricochet, président du conseil national de suivi de l'accord. Et puis ses réactions après l'arrestation du député national Némoinda Nsemi, les députés nationaux de l'opposition contactés par Radio Kapi dénoncent la violation de l'immunité parlementaire dont jouissent leurs collègues. Tout en reconnaissant qu'un député n'est pas au-dessus de la loi, ces élus estiment tout de même qu'il n'y avait pas lieu de parler d'une flagrance pour justifier l'arrestation de Némoinda Nsemi dans ces conditions-là. Le député Fabrice Pouela, joint par Michel Kifindangoy.
Premièrement, nous devons noter que le député national n'est pas au-dessus de la loi. Il peut lui arriver de commettre des infractions. Et lorsque cela arrive, au regard de sa mission justement, des représentations du peuple, la Constitution entoure son arrestation ou ses poursuites de quelques formalités. Entre autres, la Constitution est claire qu'il faut d'abord que ces immunités soient levées. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas appris que les immunités parlementaires de l'honorable Némoinda Nsemi ont été levées. Ce qui veut dire que Némoinda Nsemi a été arrêté de manière irrégulière. On ne peut pas aujourd'hui nous parler de flagrance parce que, quand bien même nous ne savons pas ce qui lui est reproché, si c'est pour des propos par lui tenus, c'est depuis plusieurs semaines, si pas déjà un mois, qu'il a tenu ses propos, on ne peut pas l'arrêter parce qu'on ne peut pas parler de flagrance aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas imaginer dans un pays dit de droit et qu'on procède par des arrestations de ce genre.
Signalons que quelques élus du peuple, membres de la majorité présidentielle, contactés par Radio Kapi, n'ont pas souhaité s'exprimer à ce sujet. Faisant cap vers le Kasaï où le calme est revenu hier après-midi à Kamako, c'est après une incursion de quelques individus se réclamant des miliciens de Kamuina Nsapu. Selon le gouverneur du Kasaï, ces derniers ont été maîtrisés et repoussés par les forces de l'ordre. Marc Manyanga ajoute que les assaillants ont incendié une partie du bureau de la police et brûlé tous les documents trouvés sur place. Vraisemblablement, affirme la même source, ces individus sont venus de Kananga dans la province voisine du Kasaï central. S'agissant du bilan des affrontements, le gouverneur parle de 3 assaillants blessés et arrêtés et une arme récupérée. Marc Manyanga Ndambo, joint depuis Tshikapa par Jean-Désiré Kanyama.
Tout est parti à 0h. Il y a eu une incursion de quelques inciviques qui se faisaient passer pour étant à des miliciens. Bon, ils sont allés vers 2h du matin du côté avec la police. Ils ont essayé d'incendier une partie, mais ce qui les intéressait plus, c'était les documents qui étaient là, qu'ils ont essayé de brûler. Et vraisemblablement, ce sont des inciviques qui viennent du côté de Kananga, parce qu'ils étaient 5, dont une femme, qui viennent de l'Ndé. Et donc c'est pratiquement là qu'ils ont planifié leur action pour s'infiltrer au niveau de Kamako et créer cette situation de panique-là.
Vous voulez dire que ce sont des miliciens de Kamuina Nsapu?
L'enquête est en cours, hein, mais de toutes les manières, ils s'en réclamaient. Mais l'enquête est en cours parce que nous avons constaté aussi que y a des bandits aussi qui ont utilisé le même schéma et qui s'en réclament et qui font ce que nous avons constaté au niveau de Kamako là.
Direction Ituri, la MONUSCO vient de mettre en place une coordination comprenant l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, OCHA et la mission onusienne en RDC pour contribuer dans la lutte contre une maladie qui s'apparente au choléra, maladie qui a déjà fait plus de 20 morts dans le territoire de Mambasa. C'est à l'issue d'une réunion hier au quartier général de la MONUSCO à Bunia. Son chef de bureau en Ituri, Karna Soro, explique l'objectif de cette équipe mixte au micro de Martial Kiza.
Comme vous le savez, les Nations Unies sont ici pour appuyer le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement provincial. Donc, dans le cadre de cette épidémie qui s'est déclarée, nous nous sommes réunis avec les collègues des autres agences pour mettre en place cette plateforme, interface, qui nous permettra d'appuyer le gouvernement provincial et aussi les autres partenaires qui sont en train de répondre à cette situation. Il s'agit d'une épidémie de choléra. Et quand on parle d'épidémie, on est en train de parler d'une situation de santé publique. On a examiné les chiffres, on a analysé le terrain, on a analysé l'environnement. Nous avons estimé qu'il était important rapidement de mettre une coordination interne au niveau des Nations Unies qui nous permettra de dégager d'une part les idées et les moyens à mettre en appui au gouvernement provincial qui, à travers la DPS et le ministère de la Santé provinciale, déjà est à l'œuvre pour faire face à cette situation.
Dans l'actualité, notez aussi la célébration hier 6 mars du 60e anniversaire de l'indépendance de la République du Ghana. Le contingent ghanéen de la MONUSCO ici à Kinshasa a fêté hier dans les installations de la mission dans la commune de Limété au programme Parade militaire et danse culturelle. Jean-Pierre Elali Koko y a assisté. Suivez son reportage.
Premier temps fort, la parade militaire. Uniforme impeccable et devant le drapeau tricolore de leur pays, les casques bleus ghanéens ont défilé pour marquer leur attachement au pays des Kwame Nkrumah. La cérémonie a été présidée par Joseph Anine, ambassadeur du Ghana en RDC. Plusieurs autorités, tant militaires que civiles de la MONUSCO et d'autres invités de marque ont pris part à l'événement. Pour l'ambassadeur, le Ghana se tient aux côtés des autres pays pour aider à la stabilité de la RDC.
Independence anniversary, wish them all the best and wish them stability, peace and everything.
Comme partie de notre anniversaire, on vous souhaite la stabilité et que la paix revienne.
Deuxième temps fort, les danses culturelles. Les représentants des quatre groupes ethniques du Ghana, à savoir les Ga Adamé, les Northern Group, les Akan et les Ewe, ont rivalisé d'ardeur sous un soleil accablant pour donner un cachet spécial au 60e anniversaire fêté loin du Ghana natal. Pour rappel, le Ghana est le premier pays d'Afrique noire à avoir obtenu son indépendance en 1957.
Nord Kivu à présent, parlant de l'évaluation de l'opération d'enrôlement des électeurs dans les villes de Beni, Butembo et des territoires de Beni et Lubero. Dans une réunion tenue à Butembo dimanche, les coordinations de la société civile du Grand Nord et du Nord Kivu disent constater plusieurs dysfonctionnements dans ce processus. Sekoumbi Katondolo nous en parle.
Au cours de cette réunion de Butembo, plusieurs points ont été signalés quant au déroulement du processus d'identification et d'enrôlement des électeurs, notamment le manque des cartes, des papiers de plastification et la fermeture de plus de 10 centres d'enrôlement. Pour la société civile de ces deux territoires, cette situation serait entretenue par certains politiciens et par la CENI elle-même, qui, selon toujours ses coordinations, n'est plus indépendante. Ainsi, elle recommande entre autres la restructuration de la CENI depuis sa base jusqu'à son sommet. Elle recommande également au gouvernement congolais de mettre de moyens nécessaires à la disposition de la CENI pour lui permettre de mener à bien ses processus qui tend vers sa fin. Monsieur Janvier Kassahirio, secrétaire de la société civile du territoire de Beni.
Alors, les constats, ils s'annoncent une main noire de certains politiciens mal intentionnés pour des calculs électoraux. Donc, il y a des entités qui sont vraiment rafloué par des matériels, mais d'autres entités qui sont sanctionnées. Il service aussi la politisation de la commission électorale indépendante, qui dit transparente et indépendante, mais malheureusement, qui montre déjà des penchants sur certains calculs politiques.
Contactez le secrétaire exécutif de la CENI au Nord Kivu, Raphaël Akilimali, rejette en bloc toutes ces accusations et parle plutôt de manque des entrants dans certains centres en raison du taux de fréquentation. Raphaël Akilimali ajoute que les consommables sont envoyés à chaque centre selon son taux de fréquentation qui est mesuré par une visite de péréquation. Il déplore cependant le fait que tout le monde veuille se faire passer pour un spécialiste des élections. Beni, c'est Kombi Katondolo, Radio Okapi.
Comme dit dans le sommaire, pas de taxi cet avant-midi dans la ville de Matadi. Les conducteurs des taxis et autres moyens de transport en commun ont ainsi répondu à l'appel lancé par le député national de l'opposition, Albert Fabrice Puella. Ce dernier justifie son appel par l'état de dégradation très avancé de toutes les voiries urbaines du chef-lieu du Congo central, ce qui a conduit même à l'abandon de certaines d'entre elles. Guy Roger Niampala, reportage.
On observe ce mardi une absence totale des transports en commun depuis 6h30 heure locale jusque ce midi dans la ville de Matadi. Les écoliers, travailleurs et autres commerçants ont fait les pieds pour atteindre leur milieu de travail ou école. Le député national Albert Fabrice Pula, initiateur de cette journée sans véhicule.
Les lycéens Vuvuketo, ça fait plus d'un mois que ce chantier est abandonné et sur 24 novembre, la route qui va vers Ango Ango. Il ne manque que juste le coup d'envoi alors que le gouvernement central a déjà disponibilisé de l'argent des gouverneurs et aux abonnés absents. Et cela est pratiquement entretenu par le gouvernement provincial. Il n'y a pas de développement sans route. Il faut qu'on arrange les routes.
De son côté, le ministre provincial en charge des infrastructures, Florian Massaki, justifie l'arrêt de certains travaux de réhabilitation des routes de Matadi par l'agenda chargé du gouverneur de province.
Nous avons trouvé que dans l'ensemble, tout ce que nous appelons les Wewa, ils sont très circulés. Dès que le gouverneur arrive, donc, soyez rassurés que nous lançons les travaux. Et nous ne le faisons pas parce que tel a dit ceci. Non, 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 c'est un programme du gouvernement. Il a dit qu'après Boma, nous allons attaquer maintenant Matadi. Et je vais m'investir pour les routes. Et c'est le moment de Matadi. J'ai du respect d'abord à tous les élus, tant nationaux que provinciaux. Mais je pense qu'il y a quelque chose que je voudrais souligner ici, c'est la distraction.
À l'heure actuelle, plusieurs sources affirment que dans certains coins de Matadi, cette journée ressemble à une ville morte. Matadi, Guy Roger Nyampala, Radio Capi.
Actualité Afrique Monde.
Nous commençons au Soudan. Amnesty International vient de redemander à l'ONU de diligenter une enquête sur les soupçons d'attaque à l'arme chimique perpétrée par le régime de Omar el-Béchir contre des civils lors des opérations militaires contre les rebelles dans des localités de la région du Djebel Mara au Darfour. En septembre dernier déjà, l'ONG des défenses des droits de l'homme parlait d'au moins une trentaine d'attaques à l'arme chimique en 2016. Elle avait estimé entre 200 et 250 personnes tués dans des explosions aux agents chimiques. La plupart des victimes étaient des enfants, indique Amnesty International. Au Niger, 5 gendarmes ont été tués dans la nuit de dimanche à hier lundi au cours d'une attaque de nature terroriste dans la région de Tillaberi. Une source sécuritaire avait fait état dans un premier temps d'un bilan de 4 morts. Selon un communiqué du ministère nigérien de la Défense lu lundi à la radio d'État, la réponse immédiate des forces de sécurité a permis de repousser les assaillants. Le secteur est quadrillé et des opérations sont en cours afin de les neutraliser. Aux États-Unis, la Maison-Blanche a annoncé la signature d'un nouveau décret sur l'immigration censé remplacer le premier qui avait suscité un tollé à travers le monde. Si dans la version précédente, les ressortissants de 7 pays musulmans étaient concernés, désormais 6 pays sont visés. L'Irak a été retiré de la liste et les détenteurs des visas ou d'autres documents officiels seront désormais explicitement protégés. Les ressortissants d'Iran, de la Libye, de la Somalie, du Soudan, de la Syrie et du Yémen, eux, en revanche, reste concerné par la nouvelle version du décret. Et puis, entre la Malaisie et la Corée du Nord, la tension est montée d'un cran depuis que l'ambassadeur nord-coréen a été expulsé de Malaisie lundi. Pyongyang a interdit aux Malaisiens présents en Corée du Nord de quitter le pays. Résultat, la Malaisie a répliqué ce mardi. Le gouvernement malaisien a interdit à partir de ce mardi au personnel de l'ambassade du nord-coréenne de quitter le pays. C'est ce qu'a annoncé le vice-premier ministre malaisien dans une conférence de presse organisée en urgence depuis le meurtre du demi-frère du dirigeant nord-coréen le 13 février dernier à l'aéroport de Kuala Lumpur. Les tensions entre les deux pays n'ont cessé de croître. Voilà tout pour cette synthèse de l'actualité internationale. Merci de continuer à nous suivre. Nous entamons donc la seconde partie de ce journal avec le mini-dossier. Et nous sommes dans le Haut-Katanga où quelques quartiers de Lubumbashi font face à une insécurité permanente. C'est le cas des quartiers tels que Jekamine, Matipisha, Kaloubwe et Gambela 2. Et dans ce dernier cas, les habitants ont même construit un sous-commissariat de la police avec leurs propres moyens pour faire face à cette situation qui crée la psychose. Cette situation a contraint beaucoup de familles à quitter leur milieu pour se réfugier ailleurs. Karine Toperidassi nous en parle dans ce mini-dossier.
Au quartier Jekamin Machipicha, plusieurs maisons sont inhabitées. Selon des témoignages des habitants, depuis décembre dernier, 25 familles ont déménagé à cause des cas de meurtre, de vol et d'extorsion orchestrés par des hommes en uniforme. Ici, les habitants se disent exaspérés. Ainsi, ils ont créé un système d'alerte pour se secourir mutuellement. L'un d'eux témoigne.
Sur mon avenue, lac Tanganyika, il y a eu 8 déménagements. Dans un mois, le quartier Mampala et le quartier Bruxelles. Il y a plus de 25 déplacements des familles. Et les gens ont fui l'insécurité parce qu'ils ne savent pas vivre. Mais nous voyons la présence de la police au niveau de Machu Picchu qui n'ont jamais intervenu.
Même situation au quartier Gambela 2 où des coups de feu sont régulièrement entendus pendant la nuit. Des hommes en uniforme, non autrement identifiés, attaquent des maisons d'habitation, ils volent des biens de valeur et de l'argent et parfois même, ils violent des femmes et des mineurs. Ici aussi, comme au quartier Machu Picchu, certaines personnes prises de peur ont quitté le quartier. Face à cette insécurité qui prend des proportions inquiétantes, la population a pris des dispositions pour y faire face. Des jeunes gens passent nuit à la Belle Étoile pour assurer la sécurité dans le quartier. Ses habitants ont construit un sous-commissariat avec leurs propres cotisations, mais jusqu'à présent, les bureaux ne sont pas encore occupés. Nous sommes décidés de construire un sous-commissariat de la police à cause de l'insécurité. En tout cas, nous ne savons plus vivre, nous sommes inquiétés, nous vivons dans la psychose et c'est pour ça que nous avons fait le portable. Porte, chacun a donné quelque chose et nous avons construit ce commissariat qui malheureusement jusque maintenant n'a pas d'éléments, d'où notre SOS. À la police, on indique que ses habitants doivent saisir le sous-commissariat le plus proche. Celui-ci va faire rapport à la police ville qui à son tour va saisir le commissariat provincial de la police qui va décider du détachement des éléments. D'autres cas d'insécurité sont aussi déplorés au quartier Kaloubwe dans la commune Lubumbashi. Là-bas aussi, on assiste à de nombreux déménagements.
C'est une psychose sans nom. Moi, je suis bailleur, j'ai même perdu aussi un locataire. Tout le monde est en train de déguerpir le quartier.
Quelle analyse faire de cette situation? Pour les criminologues, l'État doit prendre ses responsabilités. Norbert Lupici.
Le problème, il est complexe, mais il y a des choses que l'on peut faire dans l'immédiat. L'État doit prendre ses responsabilités, parce qu'il faut par tous les moyens arrêter ce mal. Il faut mettre en place les éléments sécuritaires, les motiver et leur donner du matériel adéquat. Ça, c'est vraiment dans l'immédiat. Mais à long terme, il faut réorganiser la société. Parce que très souvent, nous avons tendance à attaquer les symptômes pendant que la vraie cause est très loin. Il y a des formes de criminalité que l'on voit aujourd'hui, mais qui ont des racines très lointaines. Je donne un exemple. Vous n'encadrez pas la jeunesse. Après, vous avez des bandits, vous avez des coulounes, mais à qui la faute? Donc vous avez péché quelque part en amont. À long terme, il faut vraiment repenser le fonctionnement de la société.
C'était là le mini-dossier proposé par Karine Topéridassi depuis Lubumbashi. On va à présent parcourir les journaux parus ce matin à Kinshasa. D'après un sondage Top Congo, présidence du RASOP, Pierre Lumbi dévance largement Olinga Nkoy et Mayombe. C'est la une du journal Forum des As, Onésimo Kandila.
Le confrère rapporte qu'à la question « Qui selon vous mérite le plus la présidence du Conseil des Sages ?» 73% des sondés pointent le leader du G7, 8% se prononcent pour le patron du FONUS et 1% pour l'élu de Bolomba. Aussi la prospérité signe-t-elle en manchette sondage Top Congo, rassemblement, Pierre Lumbi en pole position. Pendant ce temps, 7sur7.cd annonce qu'à la Cinco, les Antilles Félix et Lumbi ont déposé hier aux évêques le procès verbal notarié portant la désignation d'Olinga Nkoy à la tête du CNSA. De quoi alimenter la chronique du quotidien L'Avenir qui met en vedette le rassemblement en plein naufrage. Kabila pour sauver la démocratie. Selon le confrère, l'environnement politique congolais présente à ce jour des allures d'un cocktail Molotov pouvant exploser n'importe quand et n'importe où si l'on y prend garde. Qu'à cela ne tienne, actualité.cd relaye la déclaration de l'Union Européenne. Ni la disparition de Tshisekedi, ni la situation sécuritaire ne peuvent bloquer l'alternance en RDC. Dans la même veine, le phare s'allume par RDC. L'Union Européenne insiste sur les élections en 2017. En outre, le tabloïd de l'avenir s'interroge, et si Tshisekedi ressuscitait? il ne trouvera personne comme fidèle disciple parmi les opposants renchéris. Le journal. D'un autre bout de la lorgnette, actualité.cd annonce au sujet de l'inhumation de Tshisekedi que le gouvernement provincial ordonne l'arrêt des travaux au cimetière de la Gombe. Ce sur quoi en vrai le quotidien L'Avenir qui relève que la famille d'Étienne Tshisekedi fait volte-face, la dépouille mortelle ne sera plus rapatriée ce samedi 11 mars comme initialement annoncé. Sous un autre chapitre et pour clore, Zoomeco.net renseigne qu'en RDC, la compagnie Fly CAA réduit 90% de son personnel. D'après le média, CAA opère actuellement en mode service minimum. Environ 700 agents ont été envoyés en congé technique et en quoi des sources proches du dossier, la compagnie aurait déjà amorcé le processus de désengagement total de ses agents au niveau de l'inspection du travail. En ce qui nous concerne, ce n'est pas du tout un désengagement, mais plutôt une trêve que nous observons. Merci de nous rester fidèles.
Merci Onésime Mukandila. On passe au sport à présent avec Christian Mulumba Kalumba.
Bonjour, Cédric Batambou a décliné l'invitation pour sa présélection en vue du match amical contre le Kenya le 26 mars prochain. L'international congolais a sur son compte Twitter justifié son absence par ce message. Chers amis congolais, j'ai eu l'honneur d'être présélectionné une nouvelle fois pour le rassemblement avec notre sélection. Cependant, en raison d'obligations extrasportives privées, je ne pourrai honorer ma sélection cette fois-ci. Je serai pour ce match, comme pour tous les autres, supporter de nos léopards. Fin de citation. Contacté, Théobald Binamungu, vice-président de la Fédération congolaise de football et coordonnateur des équipes nationales, dit ne pas être informé de cette situation. Auteur d'une belle saison, le défenseur guingampé Jordan Ikoko va prolonger dans les prochaines heures son contrat d'une année. Le Congolais, arrivé en juin dernier en Bretagne, a disputé 20 matchs avec son club et s'est rallié avec l'Anavant Guingamp jusqu'en 2020. Jordan Ikoko a joué avec les sélections françaises des U16, U19 et U20 et le garçon est devenu depuis 2016 international congolais. Championnat national de football, Sa Majesté Saint-Gabalindé affronte l'AS New Sogère au stade Kibasa Maliba avant le FC Saint-Éloi Lopopo contre Simba, match de la 15e journée. Notons que ces deux rencontres sont sans enjeu étant donné que le tout-puissant Mazembe, Sa Majesté Saint-Gabalindé et Don Bosco pour le centre et sud, l'ASV Club, le dernier club Matampembe et Renaissance du Congo pour la zone ouest et en attendant l'homologation de tous les résultats et le classement sur le site officiel de la Lina Food pour la zone Est nous donne Dauphin Noir en tête avec 29 points. Mounganou et Bukavudawa ont chacun 23 points. La zone Est devra livrer deux clubs pour les playoffs en dépit du fait que quelques rencontres restent à jouer dans les sites Ouest et Centre et Sud. Préliminaire de la Coupe du Congo de football, deux matchs sont au programme pour le camp de la province du Nord Kivu. Le FC Likonga affronte l'AS Nyuki et le FC Nika joue contre l'AS Kabasha. Rappelons que dimanche, l'AS Nyuki de Butembo a été battu par Kisindi Sport de Beni par 1-4. À Bandundu, un match de barrage est prévu pour aujourd'hui et ce match devra départager JSK et ASK de Kenge. Le gagnant de cette rencontre jouera la finale le samedi contre Malebo qui a terminé en tête du site de Kikwit. Pendant ces temps à Kinshasa, les inscriptions se poursuivent jusqu'au 15 mars avec $500 américains comme frais de participation. Le ministre de la Jeunesse et des Sports reçoit cet après-midi en son cabinet de travail les responsables de toutes les fédérations sportives. Willy Bakonga devra mettre un terme aux divergences qui existent entre le comité exécutif actuel du comité olympique congolais et une partie des membres de cette entité sportive. Et puis le ministre provincial des Sports suspend les activités de l'entente rurale de football d'Irumu ainsi que celle du cercle de football d'Irumu à Bounia. Dans une correspondance adressée au chef des bureaux des sports, Benjamin Pirot justifie sa mesure par ce qu'il qualifie de désordre qui sévit au sein des comités de ces ententes. Ces derniers ne reconnaissent pas cette décision du ministre des Sports qu'il qualifie d'ingérence politique dans les activités du sport. C'est la fin de ce journal de sport. Merci de nous avoir suivis.
Et nous bouclons ce journal avec le taux d'échange. Un dollar américain s'échange ce mardi 7 mars 2017 à 1325 francs congolais au taux de la Banque centrale du Congo. Et c'est par là que nous bouclons ce journal coordonné par Noëlla Luzi Tukabambi et Julien Nyamouini à la supervision, Jean-Noël Mokondo à la technique. Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de votre attention.